Reprenez vos Bibles à Jean Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le titre que j'ai ici devant vous, c'est peut-être le 10e titre sur quoi j'ai décidé de changer. Parce que j'aurais pu commencer à plusieurs différentes parties de ces deux passages pour commencer le traitement de ce sujet. Et hélas, je me suis trouvé trop approfondi dans trop de choses. On aurait pu vraiment passer du temps, à plusieurs reprises même, sur ce magnifique passage. Je commence par le verset 22 et 23. Je commence par ça pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est parce que c'est un deux versets qui semblent ne pas avoir rien à faire avec le passage. Ça serait beaucoup plus facile de finir avec verset 21 et de continuer tout de suite avec verset 24 en laissant tomber versets 22 et 23. Ça semblerait de couler plus précisément dans la veine du sujet, parce qu'il est en train de parler de l'argent. Il en parle à partir du verset 19 et puis continue à partir du verset 24, paraît-il. Les deux versets donc, j'ai mis le passage sur l'écran que nous allons lire maintenant, c'est ici. Vous avez votre traduction à vous, j'ai le Louis II, pas le tout nouveau, mais révisé. L'œil est la lampe du corps. D'accord. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Ce que nous avons lu avant cela, c'était 19 et 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, à cause des raisons données. Mais amassez-vous les trésors dans les cieux, et les raisons données en verset 19 ne seraient pas du tout le cas. Et sachez, verset 24, que nul ne peut servir deux maîtres, parce que vous allez terminer par haïr l'un et aimer l'autre, ou le contraire. Mais entre ces deux versets, un principe que nous risquons de ne pas rester déçus, parce que c'est un peu difficile à saisir. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé, mais sinon, contraire. Il y a une autre fois dans le passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, et nous avons vu quelque chose sur ce mauvais œil, et maintenant je vous invite de garder cette place en Matthieu 6, mais de tourner à Matthieu 20. Et si vous avez suivi la lecture tout à l'heure, vous le connaissez pour la plupart de vous déjà. Franchement, c'était un parabole qui m'a troublé pendant longtemps, parce que j'étais sympathique avec des laboureurs qui travaillaient toute la journée et qui ne recevaient que la même chose que ceux qui n'ont travaillé que une seule heure même. Pour ajouter l'insulte à l'insulte, ceux qui venaient en retard partaient en premier, attendant que les autres soient payés. Enfin, il n'y avait pas que deux ou trois personnes. Il y avait peut-être des vingtaines, des trentaines ou peut-être des centaines. Et chacun devait attendre. Il commençait par ceux qui venaient d'arriver à une heure et ils laisse partir en premier. Et puis les autres, suivant le minimum de temps qu'ils avaient passé, et ceux qui avaient passé le plus du temps, restaient le plus long. C'est pas juste. Oh, on aime dire ça. Un enfant, depuis tout jeune, apprend ça depuis le début. Ce n'est pas juste qu'il soit traité comme cela. Savez-vous que le thème qui termine par verset 16 commence en chapitre 19, et nous l'avons lu, c'est une seule histoire. À partir de verset 16 de chapitre 19, ça commence là, et puis ça continue jusque là où nous avions terminé tout à l'heure. Ça commence par un jeune homme riche qui regarde Jésus avec ses disciples, qui va en courant, ça dit dans un autre évangile, qui flexe le genou devant Dieu, devant Jésus, avec du respect. Je dis devant Dieu, et puis je me suis corrigé, parce que pour lui, c'est pas Dieu, c'était quelqu'un de bien quand même, qui flexe le genou, qui montre du respect, et qui pose une question très très sérieuse. Que faut-il que je fasse pour que j'aie la vie éternelle? Avez-vous jamais quelqu'un qui viendrait vers vous, sur la rue, et qui dit, Chi-Wong, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Et tu n'as qu'à dire, vends tout ce que tu as et venez et suis Jésus. Tu aurais dit ça? C'est la seule fois que Jésus a dit ça à qui que ce soit, qu'ils sont venus. Et c'est pour traiter un problème qu'il fallait absolument traiter dans cette situation. Mais il est venu, Jésus a dit, bon, obéir la loi, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Mais quelle loi? Et puis Jésus avait nommé 5 sur les 10 à peu près, et puis il a dit, ma mère, j'ai tout fait ça. Qu'est-ce qui me manque encore? Et Jésus dit, va vendre tout ce que tu as, donner l'argent aux pauvres, viens me suivre, et tu auras la vie éternelle. On est sauvé par ça? Qu'est-ce que Jésus est en train de démontrer? Je vois aussi s'il y a un peu d'injustice, il me semble. Pour suivre Jésus, il faut vendre tout ce qu'on a. Et pour aller après lui, avez-vous fait ça? Cet homme a dû faire cela parce que le blocage était si fort que apparemment il n'y aura aucune chose qui pourrait marcher. Parce qu'il était très religieux, il avait gardé tous les commandements, il allait tous les sabbats aux synagogues, il était très juste. Mais il voulait quand même avoir l'opinion de Jésus, et au cas où qu'il y avait quelque chose qui manque, il avait sans doute déjà fait 90%, il ne restait que 10%, sans doute, parce que moi j'ai bien fait, il me reste quand même d'autres choses, et puis ça démontre encore sa piété de soi quand il demande à Dieu, qu'est-ce qui me manque? Il me reste un peu, je sais, mais pas trop. Et Jésus a dit, pas trop, non, vendez tout ce que tu as, c'est tout. Et puis, nous lisons que Jésus a répondu que l'homme est tellement étonné, d'une manière triste, il tournait le dos sur Jésus, il s'est en allé, refusant ce qu'il fallait qu'il fasse pour avoir la vie éternelle. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Après ça, Jésus dit à ses disciples qui voyaient tout cela, je vous le dis en vérité. Bon, en vérité, je vous le dis. Quand Jésus dit ça, ça veut dire, attention, attention. Écoute, quelque chose de très important. Un homme riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile pour qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'un riche de entrer dans le royaume de Dieu. Fermez les guillemets, fin de speech de Jésus, et c'est les disciples, c'est leur tour à réagir. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés. Ils étaient déjà étonnés, ils avaient mal pour ce pauvre jeune homme qui partait avec une tristesse bien visible sur son visage. Et il dit, aïe, 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 comment est-ce qu'il pourrait pas agir de la sorte? Et Jésus dit, tu sais, il est plus facile pour qu'un chameau passe à travers le trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, étonnés, ils disent, mais qui peut donc être sauvé? Je crois que j'ai déjà dit que la richesse, pour eux, c'était un signe de la bénédiction de Dieu. Et ça vient de l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, dans le dernier chapitre de Lévitique, et aussi en Deutéronome, où il est dit, si vous suivez le Seigneur, il va prospérer vos champs, il va prospérer vos familles, il va chasser vos ennemis, vous allez être ceux qui empruntent et pas ceux qui prennent les... Je dis toujours ça dans le mauvais sens. Emprunter plutôt que prêter. Vous serez ceux qui empruntent aux autres. C'est pas, et puis vous en aurez plein, vous aurez des greniers pleins de choses. Donc, Jésus savait cette mentalité des pharisiens qui étaient presque tous riches. La population n'était pas riche, pour la plupart, parce qu'ils étaient moins saints. Ils n'étaient pas autant saints que les pharisiens. Donc les pharisiens pouvaient prouver par le compte bancaire le niveau de leur sainteté. Et c'était l'histoire qu'ils avaient même dans leur mentalité bien imprimée. Et ils posent donc la question, mais donc, qui peut être sauvé? Quelques chapitres auparavant, Jésus avait déjà dit, à moins que votre justice surpasse la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. Eh bien, c'est eux qui montrent le chemin du royaume de Dieu. Et si votre justice ne dépasse pas le leur, c'est fini pour toi, pour vous. Et puis, Jésus le regarde et puis dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Nous avons en anglais une expression qui dit « He puts his foot in his mouth ». Ça veut dire « Il dit toujours la mauvaise chose au mauvais moment ». Pierre était comme ça. Et ce qu'il va dire maintenant, c'est une de ses bêtises. Pierre va dire « Voici, nous avons tout quitté ». Qu'est-ce qu'il venait de dire au jeune homme riche? Vendez tout ce que vous avez. Donnez ça aux pauvres. Venez me suivre. Nous avons fait ça. Ah, on est mieux qu'on a pensé. Nous avons tout quitté. Qu'est-ce qu'ils avaient quitté? Mais ils avaient quitté un vieux bateau, quelques filets usés, un carrière qui juste mettait du pain sur la table à peine. Pas autant que ce jeune homme quand même. Mais dans leurs idées, et dans l'idée de Pierre en ce moment, un moment très avarice, un moment très justice de soi, un moment avec une piété de soi qui s'élevait, qui s'enorgueillait, disait « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi à fond, comme tu demandes à cet homme de vendre tout assez de ces choses et de te suivre, nous avons fait exactement ça. Nous avons quitté tout ce que nous avions. Nous t'avons suivi jusqu'au bout. Waouh, on est bien. Alors, quand sera-t-il pour nous? Comment est-ce que ça va rapporter pour nous, alors? Est-ce qu'on sera encore plus riche que ce que lui-là? Je ne sais pas combien ils ajoutaient à cela, mais il est entièrement matérialiste dans ses idées. Et puis, Jésus donne le parabole, mais le verset qui précède, Pierre, attention, c'est pas que tu n'es pas sauvé, c'est pas que tu n'es pas un de mes bien-aimés, mais tu dis une bêtise et tu rentres dans la même mentalité des païens. Et je vais te le dire, je vais te faire beaucoup de choses, verset 28 jusqu'à 29, on va pas le relire. Mais plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Hein? Oui, je l'explique. Parce que, verset 1 de chapitre 20, le royaume des cieux est semblable à... Et puis, nous avons le parabole que nous avons lu tout à l'heure. Le parabole qui semble pour nous d'être injuste, parce que vous avez des personnes qui travaillaient toute la journée, la longueur de la journée. En plus, il faisait très chaud parce que nous avons supporté la chaleur de la journée. Et puis, attention, après avoir discuté le prix était au moins le SMIG, peut-être plus. Un denier, c'était considéré un bon salaire pour une journée de travail. Et normalement, on payait par la journée. Vous travaillez aujourd'hui, on vous paye aujourd'hui, vous rentrez à la maison, vous achetez votre pain, parce que sans être payé par jour, vous ne mangez pas par jour. C'était pas par semaine ou par mois, c'était par jour. Et ils étaient payés, et quand ils avaient signé le contrat, ils étaient très contents. Oh, wow, on a un travail, et sans doute il aura besoin demain, pendant 2 ou 3 semaines, comme les vignes ici en France, ça peut durer 1 ou 2 semaines. Et puis, ils étaient très contents parce qu'ils vont recevoir au moins le SMIG, parce qu'ils étaient sans travail autrement. Très contents, ils étaient déjà contents de travailler durement, parce que sachant à la fin de la journée, ils allaient recevoir un denier. C'est bon ça. Et puis, il arrive d'autres, quelques heures plus tard, et encore d'autres, et attention, ils n'ont pas signé de contrat. Le maître avait tout simplement dit, je te paierai ce qui est convenable. Ils savaient bien, ils avaient dans la tête, sans doute sa réputation est passée devant lui, et sans doute ils avaient peut-être déjà travaillé, et ils savaient que cet homme était un homme très juste, un homme qui ne va pas nous tricher, un homme qui va nous donner la totalité de notre valeur. Et puis, il arrive des personnes à 5 heures le soir avant que ça termine à 6 heures le soir. Pourquoi vous ne travaillez pas? Allez dans mon champ, je vous donnerai ce qui est convenable, ce qui stabilise à toutes les personnes. Sauf les premiers. Les premiers ont signé un contrat. Et puis, commence par les gens qui ont été là le minimum du temps. Et son intendant, sans doute, ils se sont déjà parlé ensemble, parce que l'intendant faisait ce que voulait son maître. C'était l'intendant qui payait, nous avons lu ça. L'intendant paye le premier un denier. Et les autres personnes, waouh, c'est pas vrai. Et puis ils étaient contents, parce qu'ils allaient recevoir encore plus. Par contre, les deuxièmes personnes sont allées, qu'ils ont été dans la moins longue, ils payaient aussi un denier. Bon, mais peut-être ça va, mais les prochains, ils vont quand même augmenter un peu. Un denier pour chaque groupe. Et puis le dernier groupe, qui était le premier arrivé, reçoivent exactement ce qu'ils avaient contracté, exactement ce pourquoi ils étaient contents toute la journée, attendant de recevoir à la fin de la journée, mais terminant par ne pas être content, ayant reçu exactement ce qui était juste. C'est pas juste. C'est pas juste. C'était la question, c'était une question rhétorique que le maître lui-même a posée. Quand ils reçoivent leur denier à eux, ils murmurent, verset 11, contre le maître de la maison. Pourquoi ils murmurent? Ils étaient très contents d'avoir été embauchés. Ils travaillaient assez contents durement, mais quand même, on va être payé à la fin. C'est le SMIG, mais heureusement, grâce à lui, on peut travailler. Maintenant, tout est changé. Ils murmurèrent contre le maître de la maison, disant, ces derniers ont travaillé qu'une heure, et il les traite en égalité avec nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la valeur, et puis répondent à eux, à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort, n'as-tu pas convenu avec moi d'un denier, n'as-tu pas signé, est-ce que je te donne moins qui est convenu? Est-ce que je te traite mal? Non. Alors, prends ce qui te revient. Notez ce qui te revient. Il prend exactement ce qui le revient. Pas plus, mais pas moins non plus. Va-t'en. S'il me reste de l'argent pour donner un cadeau à qui que ce soit, est-ce que je suis obligé à donner un cadeau à qui, à tout le monde? Non, non, je vous paye, je leur donne, offre, je leur offre, c'est tout. C'est mon droit, c'est mon argent. Quand vous pouvez prendre votre denier et vous pouvez donner acheter un cadeau pour quelqu'un, ou vous pouvez embaucher quelqu'un de faire votre cuisine, faites le même avec votre argent que je fais avec le mien, et dont j'ai le droit, et dont vous avez aussi le droit. Et puis, intéressant, ou bien, vois-tu d'un mauvais œil? Ah, c'est ce que nous avons vu en Matthieu 6. Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Et puis, répète ce avec quoi il a commencé cette parabole en verset 30 de chapitre 19. Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. La Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, tout sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout sera ténèbres. Les ouvriers qui travaillaient pour leur dû étaient éclairés jusqu'au moment où ils ont été privés de leur joie par murmurer contre ceux qu'ils estiment auraient dû recevoir moins qu'eux, comme s'ils avaient le droit de diriger les affaires et l'argent même de quelqu'un d'autre indépendant de leurs propres ressources. L'œil est souvent utilisé dans la Bible comme la manière à travers laquelle entre l'éclaircissement du corps. Quelqu'un a appelé l'œil comme le régulateur du corps. Il est bien connu, un funambule par exemple, qui se balance sur une corde. Il ne regarde jamais à la corde, il regarde à un point fixe. Pour que s'il regarde à la pointe fixe, il n'a que marcher droit comme il le sait faire, et il ne va pas tomber. L'œil est le régulateur de tout ce que fait le corps. Le moment où l'apôtre Paul était tombé aveugle sur la route de Damas, lui, le grand chef de tout cet entourage, il fallait qu'un petit serviteur prenne Paul et le fait lever et le guide, et Paul seul était à la merci des autres parce que son œil était dans les ténèbres. Je crois que pendant les 3 jours que Dieu a permis que Paul reste entièrement aveugle, il a voulu qu'il comprenne l'horrible aveuglement dans quoi il a vécu toute sa vie spirituellement. Et la vie spirituelle est infiniment plus importante que la vie physique. Et c'est l'œil sur quoi le maître est en train de parler. Comment ça se fait que Jésus lui-même était capable de aller jusqu'au bout avec le plan du salut? Comment ça se fait que les chrétiens qui commençaient à affaiblir dans leur foi en hébreu ont appris ce verset de l'apôtre ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a su faire la croix. Vous voyez deux fois, vous gardez les yeux fixés sur Jésus, parce que les temps sont difficiles, les temps sont terribles, il y a de la souffrance, il y a des chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Des chrétiens qui sont chassés dans la forêt, sont chassés de leurs biens, de leur famille, à cause de leur foi en Jésus-Christ. Mais si, et seulement si, vous gardez les yeux fixés sur le but, votre raison d'être, vous n'allez pas terminer par persévérer jusqu'à la fin. Pas possible. Il y aura ou des ennuis, ou des souffrances, ou des plaisirs, ou mille autres obstacles que plus tôt ou plus tard va vous dérailler de votre route. Et ça, c'est aussi la souci, la crainte que nous voyons souvent comme pas très important du tout. Revenez à Matthieu chapitre 6, où nous voyons en versets 19 et 20 deux dépôts de trésors. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Verset 20. Mais amassez des trésors dans le ciel. Apparemment, vous n'avez que deux choix. Vous avez deux choix quand même. Parce que, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et il aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, ce que Jésus veut imprimer, où vous allez amasser des trésors sur la terre, où vous allez amasser des trésors dans le ciel, mais vous ne pouvez pas faire les deux, parce que l'un ou l'autre sera votre maître. Et puis, il donne des raisons pour lesquelles on devrait donner, amasser des trésors dans le ciel plutôt que la terre. Premièrement, en verset 21, parce que c'est là où est le cœur. Là où est son trésor, là aussi sera son cœur. Ce n'est pas simplement en train de dire que c'est normal que le cœur suit le trésor. C'est en train de nous enseigner que les deux sont inséparables. Vous ne pouvez pas séparer votre cœur de votre trésor. Ce qui pour vous est le plus important dans la vie est ce où suivrait votre trésor, votre cœur, vos affections. Donc Paul va dire en Colossiens chapitre 3, cherchez des choses d'en haut plutôt que les choses en bas. Et c'est ce que Jésus est en train de développer dans ce long passage, tout sur l'argent. Le cœur, le centre des affections, de l'intelligence, est là où est son trésor. Et si le trésor soit amassé sur la planète, le cœur va forcément suivre son trésor dans la mentalité de la planète. Et ça ne peut pas être autrement. Attendez, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire un compte d'épargne. Enfin, il y a quelques mots qui nous donnent le signe de cela. Le verbe « amasser » et aussi le mot « trésor ». il y a beaucoup de gens qui n'amassent rien, ils ne mangent que de jour en jour. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de trésor pour qu'ils amassent cela. Ils vivent de ce qu'ils ont. Et il va traiter ce problème plus tard dans le texte aussi. Mais il est en train de traiter le problème de ceux qui ont la capacité d'acheter des actions, de faire agrandir leur argent sans utiliser pour quoi que ce soit. Il y a plein de choses que la Bible dit, comment nous pouvons être libérés de suivre Dieu étant même millionnaires. Bien que ça, c'est très très difficile, parce qu'il est plus facile pour qu'un chameau de passer à travers le trou d'un aiguille que pour un milliardaire d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas possible, c'est pas impossible. C'est impossible, à moins que Dieu intervienne miraculeusement, il va dire. Avec l'homme, c'est pas possible. Mais avec Dieu, tout est possible. Même que Bill Gates aille au ciel. C'est vrai? Si. Il peut ne pas servir maman. Il peut choisir de servir Dieu et de amasser des trésors dans le ciel. Pourquoi déposer votre trésor dans le ciel? Parce que il n'est pas possible autrement que vos cœurs vous suivre au ciel. Deuxième raison qui est donnée en verset 22, c'est ce que nous voulons voir dans un instant par rapport à l'œil. C'est à cause de l'œil, parce que la vue sur les choses spirituelles est activée quand on est libéré de l'esclavage, de notre mentalité, comme les, on dit, possesseur, on devrait dire possédé par nos possessions. Et ça, c'est le cas. Celui qui amasse des trésors, pour amasser des trésors. Vous savez, Dieu veut que vous gagniez de l'argent pour vivre. Dieu veut que vous gagniez de l'argent pour aider les pauvres. Dieu veut que vous gagniez de l'argent pour glorifier Dieu et avancer son royaume. Mais, savez-vous, il y a des gens, et il y a des millions de gens, qui amassent de l'argent. Pourquoi? Pour qu'ils puissent amasser de l'argent. Pour qu'ils puissent faire quoi? Pour qu'ils puissent amasser de l'argent. Ça, c'est faux. Dieu dit, ceux qui cherchent à être riches vont tomber assurément dans toutes sortes avec un mauvais œil de péché, de convoitise, parce que vous n'êtes pas ici pour amasser de l'argent, pour amasser de l'argent. Vous devez, avec grande responsabilité, utiliser l'argent. Vous devez utiliser votre capacité intellectuelle pour en gagner plus, pour faire tout ce qui est nécessaire pour acheter des provisions que vous avez, pour pouvoir donc aider les autres, pour prévenir des mauvais jours dans l'avenir. Et il y a plein de versets qui parlent de cela aussi, pas mal de proverbes qui parlent du fait que nous devrions regarder les oiseaux et regarder le fourmi qui travaille dur, qui prévoit pour une saison où il n'y aura plus de quoi manger. Et on a toujours besoin de faire ça. Dieu promouvoit la utilité, l'épargne de l'argent avec sagesse, plutôt que juste dépenser parce qu'il est là. Non, Dieu parle sur cela aussi. Là où est son trésor et son cœur. Et l'œil qui ramasse ses trésors pour le ciel est un œil qui est éclairé par la réalité. Et l'œil qui ne ramasse pas pour le ciel mais pour la terre, est un mauvais état. Il ne voit pas bien. Ayant fini l'étude de tout ce chapitre que nous ne pourrions faire, et tout ce que Jésus a à dire, vous allez terminer par penser, la manière que je gère mon argent avec la mentalité que je gère mon argent va dépendre sur beaucoup de choses spirituelles. Je ne peux pas voir correctement les spiritualités. Je ne peux pas voir correctement du tout ce qui appartient au Seigneur si je ne gère pas mon argent. Enfin, il va dire ça. Oh, j'avais le passage dans ma tête tout à l'heure. J'ai pas écrit cela, mais en Luc 13, 11 ou quelque chose par là, il va dire, si Dieu ne peut pas vous confier le mammon de cette terre, comment est-ce qu'il peut vous confier des choses spirituelles? Il est en train de suggérer, non, de dire, les richesses spirituelles sont beaucoup plus importantes que les richesses matérielles. Les richesses matérielles sont importantes, mais il va dire ici, cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est intéressant que dans le temps-là, il n'y avait pas des banques comme nous avons pour épargner notre argent. Il y avait trois choses et il traite ces trois choses. Il y avait des vêtements qui étaient utilisés pour l'échange très souvent à travers la Bible. Et il y a les vêtements qui étaient signes de opulence, qui étaient des signes de une chose de l'échange. Quand un riche voulait honorer quelqu'un, il donnait Benjamin était donné par Joseph 5 changes de vêtements. Achan, quand il était dans le camp, il n'a pas simplement pris un morceau de or qu'il a vu, il a pris aussi plusieurs changes de vêtements, parce que les vêtements étaient une chose, une liquide qui pourrait être échangée. Et que faisaient des riches? Mais bon, ils amasseraient les vêtements. Et il va dire, mais qu'est-ce qui se passe avec des vêtements? Mais avec des vêtements, il y a des bêtes qui peuvent les manger. Je ne sais pas comment appeler ça en français, mais aux États-Unis, nous avons des mothballs. On met ça dans ça pour décourager les bêtes de manger les vêtements. Donc, il se payait par cela. Et il dit, vous amassez des choses comme ça, ça va être teigné, rouillé, détruisé. Et puis deuxièmement, il n'y a pas que les vêtements, il y a de grains. Ils allaient payer par 50 kilos de ceci ou 15 kilos de cela. Et puis ça c'était aussi une liquide où ils faisaient des échanges entre eux. Mais le grain, et ce qui est intéressant ici, le mot rouille n'est pas un mot qui apparaît dans la Bible. Le rouille, ça ne dit pas rouille. Les traducteurs ont mis rouille. Mais si vous regardez le passage, c'est utilisé une dizaine de fois, toujours, ça veut dire manger. Ça veut dire manger. Mais c'est difficile peut-être de mettre un mot, mais il dit oui, mais ça, ce n'est pas le mot oui, c'est le mot manger. Les rats peuvent manger le grain. Et la Bible parle de cet homme riche qui était un insensé parce qu'il dit, oh, tellement je suis riche, et je n'ai pas assez, mes greniers ne sont pas assez grands pour mettre tous mes grains, je vais construire encore plus de greniers pour que je puisse mettre plus de grains dedans. Pour que je puisse vivre dans le luxe pendant le restant de ma retraite, jusqu'à la mort. Et Jésus l'appelle insensé. C'est la folie de faire ça. Et la troisième chose, c'était de l'or, de l'argent. Et ils n'avaient pas de banque, et ils ne voulaient pas le garder souvent dans leur maison. parce que il y avait des voleurs qui venaient, et le mot qui est utilisé, qui crevait des trous, et ça nous est arrivé une fois en Centrafrique, où des voleurs se sont venus, ils ont fait un trou dans la maison même pour rentrer dedans. Mais donc, ce qu'ils faisaient, c'était de sortir une nuit, quand il faisait très, très noir, avec leur trésor, ils iraient dans, quelque part dans leur champ, ils feraient un trou, ils mettraient ça dedans, et puis ils couvriraient. Et souvent, si les voleurs savaient ce qu'ils faisaient, ils auraient des espions pendant toute la nuit. Ah, il est là, il est là, il va. Et puis, ils voient où il enterrait, puis le lendemain, ils le cherchent eux-mêmes. Ils volent, donc il y a le teigne, il y a le mangement des rats, il y a les voleurs qui détruisent rien et ce n'est sauf. Rien et ce n'est sauf sur cette planète. Je me rappelle en 1999, il y avait tout le monde était beaucoup de monde dans un état de panique. Parce que quand, à 0h, à minuit, 2000, tous les ordinateurs vont prendre le feu. Toutes les choses seront perdues, toutes les choses dans la banque, toutes les figures. Et puis ils ont fait plein de choses. Il y avait même des chrétiens que j'ai lus qui avaient des maisons, des chrétiens de moyenne, qui avaient des maisons et qui stockaient 10 000 boîtes de haricots au cas où que tous les magasins n'ont rien à vendre, etc. Votre argent n'est pas sain et sauf sur cette planète. Dans les meilleures banques du monde, ils ne sont pas sains et saufs. Ça a été déjà prouvé plusieurs fois dans les dernières années où juste quelqu'un derrière un ordinateur a fait détourner des milliards, faisait entièrement fermer les banques. Les banques les plus, en Singapour, par exemple, le plus prestigieux, connu, cru, comme sain et sauf, rien n'est sain et sauf sur la terre. J'ai quelque chose à vous faire lire. Les Juifs savaient ceci. Je vais mettre ça maintenant parce que je veux que vous voyez ceci. Les Juifs savaient ce principe que Jésus est en train de le dire. Et il parle d'un roi qui a vécu était une sorte de fable qui tournait entre les Juifs, qui disait, mes pères, sur un roi qui a fait le contraire. Les rois qui précédaient avaient ramassé beaucoup d'argent ici sur la terre, et lui, il avait fait le contraire. Et il a dit comme ceci, « Mes pères ont ramassé les trésors ici-bas. J'ai recueilli pour l'au-delà. Ils ont stocké les trésors dans un endroit où la main des hommes gouverne. J'ai magasiné des trésors dans un endroit sur lequel la main de l'homme ne peut pas les toucher. » Mes pères recueillis trésors qui ne portent pas d'intérêt. J'ai rassemblé les trésors qui portent de l'intérêt éternel. Mes pères ramassaient des trésors d'argent. J'ai ramassé des trésors dans les âmes. Mes pères ont recueilli des trésors dans ce monde et j'ai recueilli des trésors dans le monde à venir. Pourquoi ? Donc, est-ce que nous devrions ne pas s'inquiéter quant à l'argent? Parce que regardez, et nous avons déjà vu, et nous avons lu 5 fois le mot inquiéter sur la question de l'argent, sur la question de nos possessions matérielles. Verset 25. Après, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, verset 25. Sur le même sujet, verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Sur le même sujet, verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Et verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Ils s'inquiétaient pour la nourriture, ils s'inquiétaient pour les vêtements, ils s'inquiétaient pour l'argent, les trois choses que les gens utilisaient comme liquide pour faire de l'échange. Sauf maintenant, nous parlons des gens qui sont dans le besoin. Avant, on parlait des gens qui vivaient dans le luxe, qui ramassaient des trésors. Ici, il parle des gens qui vivent vraiment dans la pauvreté, qui ne savent pas ce qu'ils vont manger, qui ne savent pas comment ils vont vivre. Et la première raison que Jésus donne pour ne pas s'inquiéter, c'est à cause de votre Père, verset 32. Toute chose recherche les païens. Et nous avons vu le passage tout à l'heure. Les païens recherchent de la nourriture. Les païens recherchent des vêtements. Et le païen recherche de l'or. C'est mauvais de faire ça. Le mot rechercher, c'est quelque chose de très inquiétant. C'est presque une obsession. Ils cherchent avec la totalité de leur être. C'est leur raison d'être. De vivre. Il va dire, écoutez, verset 26, regardez les oiseaux. Ils ne sèment, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas de rien dans leur grenier, mais votre Père les nourrit. Il y a certains qui lisent cela, qui disent, oh, je n'ai pas besoin de travailler. Enfin, c'est le péché de travailler. Non, est-ce que vous avez regardé un oiseau? Un oiseau ne se met pas sur une branche et regarde vers le ciel pour que ça soit rempli. Les petits font ça, mais c'est la mère qui vient avec. Et quand la mère arrive, waouh, il fait beaucoup de bruit, mais ils apprennent à faire la même chose que fait leur mère. La mère leur instruit. Bon, c'est un instinct, d'accord. Et ils travaillent, ils passent leur temps. De temps en temps, ils restent sur un poteau de téléphone, mais pour la plupart du temps, ils ne restent pas dessus. Ils sont en train de voler, ils sont en train de chercher des insectes, ils sont en train de ramasser, de faire le nid, ils sont en train de montrer beaucoup d'industrie et d'ambition, instinctivement. Mais le point n'est pas ça, le point, ils ne s'inquiètent de rien. C'est ça le point. Ils ne s'inquiètent pas. Travail dur. Ils font que travailler pour manger et pour vivre et pour faire un abri pour les petits. Mais ils ne s'inquiètent pas du tout. Et puis, Jésus dit, mais pensez. Je argumente depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Si Dieu protège et donne à manger aux petits oiseaux et leur inculque et programme de travailler dur, regardez-les, il dit, regarde, observe. Ils ne flânent pas, ils ne font pas rien, ils travaillent. Mais regardez aussi, ils sont. Est-ce que vous avez jamais vu un oiseau qui pleure? Et quand ils chantent le matin, ils ne pleurent pas, ils chantent de joie. Ils sont joyeux, ils ont crié joyeux. Ils ne savent pas s'inquiéter. S'inquiéter est un péché grave. J'allais mettre ça comme titre, la gravité, pas le péché de s'inquiétude, parce que, oh oui, si, on pêche tout le monde comme ça, c'est normal. Je veux dire la gravité du péché de s'inquiétude. Parce que l'inquiétude, c'est la fermeture d'une bonne œil et de le remplacer avec un mauvais œil. Pour prendre la mentalité de ce monde et de devenir aussi obsédé comme les païens, ils ne s'intéressent qu'à ça. Et ça, c'est ce que Jésus est en train de dire. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? si Dieu s'en occupe avec des petits oiseaux, ne valez-vous pas plus qu'eux? Ou de votre vie, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, et certaines traductions disent à leur taille, une coudée sera, une quarantaine de centimètres. Mais c'est la meilleure traduction, je crois, c'est ce que j'ai dans ma traduction, c'est coudée à leur vie. Qui c'est qui peut augmenter la durée de leur vie? On semble de faire avec des médicaments, avec des choses. C'est vrai, mais la Bible dit que Dieu nous a compté nos yeux. Il va utiliser les médicaments, il va utiliser un chirurgien qui va enlever un cancer pour que vous viviez encore 5 ans plus que vous l'auriez fait autrement, peut-être, mais vous allez quand même mourir de maladie. Maladie provoquée par un accident instantané, mais quelques organes dans votre vie vont arrêter de marcher un jour, d'une manière ou l'autre, pour que vous ne viviez plus ici. Et le Seigneur dit, qui de vous pouvez ajouter une seule durée à votre vie? Allez en arrière, verset 25, parce que je voulais vous souligner ceci. Verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi que vous serez vêtu. Et puis cette phrase, ce principe, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? On dit, mais je vis parce que mon corps est vivant. Non, votre corps est vivant parce que Dieu accorde la vie à votre corps. Et quand Dieu décide que votre corps ne vivra plus, ça m'est égal combien de vitamines vous avez mangé. C'est bien d'en faire, quand même, mais vous n'allez pas vivre une seconde plus longue. Dieu est beaucoup plus intéressé dans votre vie qui lui est donnée que les vêtements que vous mettez sur votre corps. Et combien ma femme enlevait tous les choses, chemises dans toutes les boîtes à gauche et à droite. Elle avait repassé ça. J'ai compté la semaine dernière 25 chemises. J'ai honte de vous les dire. J'en ai 25 chemises. Et la plupart, je n'utilise pas. Si c'était moi qui décidais, je pourrais vivre avec 2 chemises et 2 pantalons, mais ma femme ne me permet pas de faire ça. Mais bon. C'est quand même... C'est fou ce que nous faisons. Avec le désir de se présenter bien vêtu, plus que simplement avoir le corps couvert. Et vous connaissez cela autant que moi, certains plus que moi, mais le Seigneur parle de ceci. Pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lys du champ. C'est pas vrai le temps. Le midi et quart. Je viens de commencer. On va pas faire la classe publique aujourd'hui, donc je peux prêcher encore 1 heure, n'est-ce pas? Non, je m'arrête. Et puis, peut-être je continuerai la prochaine fois, parce que il y a beaucoup de choses à ramasser ensemble. Nous avons vous ne devrez pas vous inquiéter, parce que vous avez un Père, verset 32, qui... verset combien? Oui. Car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent, mais votre Père Céleste sait. Les dieux des païens ne savent rien. Les gens qui sont des esclaves de vêtements, de nourriture et de l'or, qui ne peuvent pas vivre plus élevés que cela, tous dépendent sur cela. Sont des gens qui sont des esclaves de tout cela. bien que Dieu a donné ça pour notre bien et pour donner aux autres et pour avancer son royaume. Mais ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas Dieu comme l'objet de leur raison d'être, vont forcément avoir l'argent comme l'objet de leur raison d'être. Ils vont vivre pour cela et ça va sortir de différentes manières. Certaines vont sembler être plus modestes que d'autres, certaines vont sembler être moins avares que d'autres. Mais ils n'ont qu'un seul Dieu. Des ressources humaines, maman et l'argent qui représentent des ressources humaines. Il n'y a aucune valeur dans un morceau de papier qui dit 50 euros dessus. Mais ça représente des ressources humaines qui maintiennent la vie de ceux qui ne connaissent pas le donateur de la vie et de ceux qui le connaissent. C'est le moyen à travers lequel Dieu a voulu que nous maintenions notre vie. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu ne connaissent rien de plus élevé que cela. Certains n'amassent pas parce que c'est bête, ils le savent. Ils sont assez sages pour comprendre que c'est bête. Mais le chrétien sait. L'incrédulité, l'angoisse, l'inquiétude est une chose. J'ai passé juste une quinzaine de minutes pour écrire. Quand je m'inquiète, je suis coupable de incrédulité, ça inclut méfiance de Dieu, de aller les promesses, de appeler en suspect les promesses de Dieu. Oui, Dieu, je sais que tu peux faire ça, mais bon, c'est pas sûr quand même. Tu as promis, oui, mais de mettre en question son amour. D'assumer la supériorité de notre évaluation de notre situation plutôt que son évaluation. Je suis coupable d'assumer le droit de juger Dieu quand je plaigne parce qu'il me donne pas ce que je crois qu'il devrait me donner. D'être content jusqu'à ce que je vois des autres ouvriers qui n'ont pas travaillé comme j'ai travaillé et ils ont payé deux fois plus que moi. Non, Dieu est celui qui me donne ce que j'ai besoin. Quand je m'inquiète, je suis coupable de mettre Dieu sur la liste de ceux qui sont suspects. Je me mets le droit de l'accuser. Je me mets en disconnexion de son but pour ma vie. Chercher d'abord le royaume de Dieu, parce que je ne peux pas faire cela. Si, maman, et mon maître. Je suis coupable de vivre avec une mentalité, une vision du monde païen. Je suis préoccupé avec les choses secondaires. Et ça, c'est le péché. Et j'en ai encore une dizaine de choses que je ne lirai pas, mais le pire, c'est que je suis coupable, verset 30, d'être un genre de peu de foi. Et ça, c'est négatif. Pourquoi vous refusez de croire quand je parle? Et ça, c'est grave. J'ai dû passer du temps de me prêcher ce serment. Je crois qu'on va continuer, Dieu voulant, une prochaine fois. La semaine prochaine, je ne serai pas... C'est Lala qui va donner le message, mais une prochaine fois, on peut peut-être faire un résumé de tout ça avant de continuer à autre chose. Mais Dieu nous a donné ces paraboles pour que nous puissions cultiver un œil en bon état. Cultiver ce que le Seigneur dit par rapport à notre valeur. Nos valeurs seront exprimées, notre maître sera visiblement vu par rapport à nos décisions financières. Il n'y a aucun de nous qui n'ont pas fait des choses égoïstes contre Dieu dans nos vies, comme il est plein de compassion, n'est-ce pas? Mais il veut que nous grandissions, que nous apprenions. Il est notre Père. Je vais vous donner juste rapidement les deux autres. À cause de notre foi, ou donc l'absence, et à cause de notre avenir. Parce qu'en 34, ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Imaginez la bêtise de doubler votre souci avec des soucis de demain. Chaque jour va avoir ses propres soucis. Et quand vous pensez à demain, quand vous vous inquiétez pour demain, vous inquiétez deux fois plus et pour les problèmes d'aujourd'hui et pour les problèmes de demain. Et je vous assure, vous raccourcez votre vie, surtout spirituelle. Un court-circuit dans notre relation avec le Seigneur. Priez pour votre pasteur. Parce que ici, je n'ai pas fait des bonnes marques. Et priez les uns pour les autres. Et encourageons-nous les uns les autres dans la vie de foi.